Je suis pas trop de ceux qui aiment l'opposition des concepts scientifiques et des concepts de la vie quotidienne. Je pense que ça n'est pas un point d'appui pour la recherche en didactique. Mais passons. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il m'est arrivé pour des étudiants de demander à des collègues biologistes du labo d'à côté de vouloir bien, pour moi, photographier le bord d'une feuille A4, enfin un tout petit bout, pour voir ce que ça devient quand on la grossit 40 fois, 100 fois, 1000 fois. Vous savez ce que ça devient? Enfin, j'ai les clichés pas avec moi, bien sûr. Mais ça devient un truc monstrueux, complètement monstrueux, quoi. Qu'on n'imagine pas. Il y a une réalité qu'on n'imagine pas derrière cette interaction d'un télé... comment dit-on? Enfin, d'un engin optique adéquat pour ça et la feuille. Bon. Ça n'a rien à voir avec la linéarité que nous mettons, que nous projetons
oui,
sur la feuille.
C'est ça.
Rien. Bon, voilà. Donc, au passage, ils auraient pu se déconditionner. Évidemment, moi, je fais ça après cette expérience historique. Mais ça veut dire qu'on restait dans un certain milieu quoi, de questionnement, etc.
Je voulais juste revenir sur la notion de catégorisation en reprenant une optique pour la classe et pour les élèves. Moi, je suis en physique. Sur la catégorisation d'objets, avec l'exemple, par exemple, de la clé et de la carte, volontairement, je les appelle comme ça, même si on pourrait effectivement les appeler toutes les deux des clés. Il me semble qu'on est sans cesse, en tous les cas, pour la discipline qui me concerne, dans des reconfigurations de catégories ou de catégorisation en faisant une nuance entre catégorisation d'objets et catégorisation d'usage. À tel point que, par exemple, même l'écran d'ordinateur, on pourrait l'utiliser, d'ailleurs on le dit, hein, je pourrais l'utiliser en table. C'est-à-dire que je peux avoir un usage qui reconfigure sa catégorie d'usage, j'en fais une table, ça pareil avec la clé, et il me semble que c'est quelque chose, cette reconfiguration des catégories d'objets à partir des usages qu'on en fait, c'est quelque chose qui va poser énormément de problèmes dans des situations d'apprentissage, puisque par exemple, pour un exemple en physique, on est sans arrêt en train de mettre dans des mêmes catégories des objets qui n'ont a priori pour les élèves rien à voir entre eux, mais parce que on va leur faire jouer le même rôle dans les usages en science. Par exemple, on en fait des... Alors, on a des mots, nous, pour ça, des systèmes ou des solides, des objets qui n'ont rien à voir. On pourrait même penser, évidemment, à la pomme et à la lune, qui, de fait, peuvent appartenir à une même catégorie, alors que, évidemment, le lien entre la pomme et la lune, a priori, pour un élève, c'est quand même quelque chose de relativement incongru. Et que finalement la reconfiguration des catégorisations d'usage qu'opère la science, c'est quand même quelque chose qui est au cœur, je ne sais pas ce que vous en pensez, des problèmes, des difficultés ou on pourrait même dire des obstacles par moment que peuvent rencontrer les élèves dans des apprentissages scientifiques typiquement.
Ouais. Ça marche ? Oui. Juste pour l'amusement, dans les sujets de mémoire que j'avais donné à mes étudiants, il y en avait un qui s'appelait on découpe une pomme, on en file le morceau, on les recompose autrement, on obtient la lune. Aucun n'a jamais choisi ce sujet de mémoire, qui a pourtant été proposé plusieurs années de suite. Je voulais juste apporter un complément à ce que j'avais raconté, que j'ai pas eu le temps d'intégrer dedans, et à propos des exemples exemplaires dont a parlé Kuhn et puis toi tout à l'heure. Ça existe beaucoup en maths. Hein. Alors par exemple, en particulier chaque fois qu'on a du mal à expliquer une démarche, Par exemple, en algèbre linéaire, il y a un élément important pour que l'algèbre linéaire serve à quelque chose et que ça parle donc aux étudiants, c'est de modéliser différents problèmes dans l'algèbre linéaire. Et je n'ai jamais été capable d'expliquer comment on faisait cette modélisation. Donc tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à donner à mes étudiants 4 exemples très différents, par des équations différentielles, par la suite récurrente que je vous ai montrée, par un certain nombre d'exemples, pour modéliser une situation ou un problème sous la forme générale T de U égale V. Je leur ai dit, je ne peux pas vous expliquer comment on fait, essayez chaque fois de faire de façon analogue, justement. Et donc je crois que c'est effectivement ça, il y a des tas de domaines où ça joue un rôle, et en particulier chaque fois qu'on n'est pas vraiment capable d'expliquer une démarche générale qui permette de s'en tirer, pas automatiquement, mais au moins avec un bon processus de recherche.
Pour rebondir sur ce que dit Marc, je dirais aussi peut-être qu'on c'est ce qu'on fait lorsque cette démarche générale, soit on n'est pas capable de l'exprimer soi-même, soit on considère qu'elle ne fait pas partie des concepts connus par l'étudiant. C'est-à-dire que c'est une manière de lui donner la possibilité de le construire.
Oui, juste un mot pour dire que dans le travail qu'on a pu faire au niveau du LDAR, vous percevez certainement les pistes de questionnement qu'on aimerait avoir pu approfondir dans l'exposé de Marc sur et que Marc vient juste d'évoquer, c'est la dernière remarque qu'il a faite, qui m'y fait penser, sur comment passer d'une analyse du rôle de l'analogie avec toutes les réserves qu'on peut avoir, tant du niveau heuristique que du niveau de l'explication, que du niveau de la formalisation, et le recul par rapport aux travaux d'historiens qui, quelquefois, comme le précisait bien Marc, portent sur des mathématiciens qui ont effectivement utilisé le terme, et d'autre part ce sont des interprétations sur des mathématiciens qui n'ont pas utilisé du tout le terme analogie, mais où l'historien voit des analogies. Donc comment peut-on passer de ce travail plus qu'exploratoire, déjà un peu structuré, à des propositions d'enseignement? Marc citait à l'instant un exemple, mais plus généralement, peut-on par exemple, au niveau du supérieur, faire percevoir cette nécessité de formalisation, de prise de recul que Emmanuel explicitait dans la citation de Villani. Cette prise de recul, ce qui est apparu en partie à partir du 19e siècle, on s'était évoqué hier sur les comparaisons entre les équations différentielles et le développement et le polynôme et le développement des dérivés partielles, cette comparaison historique, comment poser ce problème un peu métamathématique en problématique d'enseignement. Je dis simplement que, en fait, ce questionnement didactique, même si on n'aboutit pas à des résultats en termes de propositions d'enseignement, est continuellement présent dans l'analyse et l'utilisation des outils issus de différents domaines.
L'utilisation des changements de cadre, des changements de point de vue, et peut jouer un rôle important dans cet aspect des choses. En particulier parce que on a une sorte de paradoxe. c'est que l'enseignement supérieur mathématique français est encore beaucoup piloté par le structuralisme à la Bourbaki. Et donc on enseigne des morceaux très séparés et très structurés, alors que l'évolution des mathématiques depuis une trentaine d'années a fait complètement éclater ces structures. Ce que disait Villani, c'est qu'en fait, on trouve maintenant des liens entre toutes les branches des mathématiques, un peu partout, et que ça change énormément l'approche des problèmes. Et c'est plus possible pratiquement de réexposer les mathématiques à la Bourbaki. D'ailleurs, il y a plus de 15 ans que Bourbaki n'a pas sorti un volume. Il ne peut plus. C'est impossible, parce que sa structure ne marche pas, quoi. Elle ne marche plus. À la fois, il faut que nos étudiants, on leur explique ce que c'est que les grandes structures, la topologie, l'algèbre, ceci. Puis en même temps, on sait qu'en fait, c'est un peu dépassé par certains côtés. C'est pas facile à mettre en œuvre.
Est-ce que c'est pas du coup comme la taxinomie des espèces en biologie?
Ben non. Oui, si on veut, mais enfin, proportion gardée. Oui.
Ajout, enfin, ou commentaire, disons, à ce que disait Marc, c'est qu'il y a cet aspect, sans doute, d'isolat mathématique bien structuré qui coexiste. Me semble-t-il, il y a un autre aspect. Il y a le fait qu'on ne commente pas ce que l'on fait. Dans les textes, par exemple, des mathématiciens du 19e ou même du début du 20e, on voit beaucoup plus les gens dire ils font ça pour telle raison, ils ont eu cette idée. Et on voit Einstein, dans ce qu'a cité Vanda tout à l'heure, lui aussi expliciter les raisons de faire qu'il a eues particulières, qui sont peut-être des idiosyncrasies, mais on les énonce. Il y a eu un assèchement on pourrait dire, de l'épidiscours, du discours sur ce qu'on est en train de présenter. Qui, de ce point de vue, est certainement un facteur de perte de beaucoup de culture, je dirais, mathématiques ou d'autres, ou physique, etc.
Oui, sur ce point, c'est tout à fait intéressant de comparer un article de maths de maintenant à un article du siècle, même de l'autre siècle, ou par exemple les livres de Lebesgue qui sont pleins de commentaires, souvent d'ailleurs parce qu'il commence lui à être déjà un peu poli, oui, en bas de page. Mais si on regarde, ces notes, elles sont parfois méchantes. Mais avant, c'était encore pire, il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires. Alors, bon, au LAR, on a essayé de développer pas mal ce qu'on avait appelé le discours méta. Par exemple, tout ce que j'ai présenté sur l'algèbre linéaire, c'est vrai que la plupart des cours d'algèbre linéaire, maintenant, ça a un peu changé. On balance la structure de l'espace vectoriel, et puis on avance sur des théorèmes. On avait essayé un petit peu de montrer pourquoi on fait des espaces vectoriels, d'où ça vient, qu'est-ce que ça unifie, qu'est-ce que ça généralise, à quoi ça va servir. Il y a tout un discours à tenir qui est assez rarement aux étudiants, c'est vrai.
Oui, moi je pense que là, ça montre aussi l'intérêt là, de travailler, à mon avis, au moins trois... On parle de l'analogie comme si c'était un concept continu, entre ton point de vue, celui du psychologue, l'analogie en maths qui sans doute pose des problèmes, tu montres bien la nécessité que tu as de le comparer à d'autres termes utilisés en didactique des maths en particulier. Et puis on a une autre approche qui a été illustrée par Vanda, à mon avis, qui est l'analogie dans une perspective historique, plutôt les analogies qui ont marqué l'histoire des sciences ou ces événements particuliers qui sont des analogies d'une nature un petit peu différente, qui ont des fonctions heuristiques, qui sont des points de basculement, etc. C'est un autre point de vue sur les choses qui rejoint peut-être aussi ce que tu as appelé les problèmes emblématiques ou qui sont au fond des endroits qui sont cruciaux à l'intérieur d'un champ qui semble continu et qui joue un rôle particulier. Nous, le didacticien y est intéressé parce qu'il se passe des choses intéressantes. Peut-être que l'épistémologue est intéressé parce que ça révèle des nœuds à l'intérieur d'un système disciplinaire, surtout d'un point de vue historique.